le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à votre émission Magazine des Nations Unies dont voici les grands axes. Le 10 décembre, c'est ce dimanche, l'humanité célèbre à cette date la journée internationale des droits de l'homme. Cette journée marque également la fin des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. En marge de cet événement, retenez que plusieurs femmes en RDC ont été victimes cette année de nombreuses violations des droits humains, y compris le droit à la vie. C'est donc un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui l'affirme et dans cette édition, vous suivrez son directeur avec tous les détails. Vers un nouveau plan national de contrôle et de gestion des armes légères et de petit calibre en République démocratique du Congo, vous suivrez également, dans la rubrique décryptage de ce magazine, un expert en contrôle d'armes à l'UNMAS, le service de lutte anti-mine des Nations Unies, partenaire de la Commission nationale de contrôle d'armes légères et de petit calibre. Enfin, un concert pour la paix à Kamina, c'est une initiative de la MONUSCO Lubumbashi qui a mobilisé des milliers de personnes au chef-lieu de la province du Holomami.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Nous l'avons annoncé dans le sommaire, plusieurs femmes en RDC ont été victimes des violations de droits humains, dont 170 d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela pendant la période de janvier à octobre 2017. Révélation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNDH, qui l'affirme et que son directeur a partagé mercredi à Kinshasa au cours de la conférence de presse hebdomadaire de l'ONU, Honoré Missenga Kelala.
Au moins 420 femmes ont été victimes des violences sexuelles. 528 d'arrestations arbitraires, de détentions illégales, d'enlèvements ou d'embuscades et 170 d'exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires. Le directeur Aziz Thioy précise ici le statut des auteurs de ces violations contre les femmes côté étatique.
Parmi les agents étatiques, les principaux auteurs des violations des droits de l'homme contre les femmes sont les agents de la PNC, car ils ont tête pour ce qui est des arrestations arbitraires et des détentions illégales, des militaires FARDC responsables de violences sexuelles et de violations au droit à la vie.
Et côté groupes armés, les miliciens Toits sont aussi responsables des violences sexuelles à l'égard des femmes pendant la même période, tandis que les éléments FRPI, eux, se sont illustrés par de nombreux enlèvements et violences sexuelles. Autre précision du bureau conjoint, les femmes des provinces en conflit sont les plus exposées à ces violations.
Les femmes sont par ailleurs principalement ciblées dans les provinces affectées par le conflit, notamment dans le Nord Kivu, au Tanganyika, en Ituri et dans le Sud Kivu. Elles restent les premières victimes des déplacements dus aux conflits et aux violences qui secouent la RDC et les rendant encore plus vulnérables à d'autres violations.
Cependant, le directeur du BCNUEDH estime que ces chiffres sont en deçà de la réalité.
Nous précisons que ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité, bien plus cruelle, du nombre de femmes ciblées ou atteintes par ces violations et ne mesurent pas l'impact de ces violations sur les femmes et les communautés difficilement quantifiables.
Enfin, selon le bureau conjoint, au moins 87 femmes ont été victimes des violations des droits de l'homme en lien avec l'espace démocratique.
Restons dans ce chapitre avec la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. C'est le 10 décembre de chaque année et cette année, je vous le rappelle, l'événement tombe donc ce dimanche. Mais déjà vendredi dernier, la représentation de l'Union européenne en RDC a organisé en collaboration avec l'ONG Assurep une visite des sites d'un projet de forage d'eau potable dans la commune de Kimbanseke. Jean-Pierre Lalikoko était dans la suite de la délégation des diplomates qui sont allés se rendre compte de la réussite de ce projet. Suivez son reportage.
La délégation était composée des ambassadeurs de la Belgique, des Pays-Bas, de la Croatie, de l'Allemagne, du Portugal et du chargé de la coopération à l'ambassade de France. Les diplomates ont visité tour à tour les deux sites des quartiers Mangana et Bolingo en compagnie des membres des assureurs. Ici fonctionnent deux forages alimentés par deux générateurs chacun. Ils ont une capacité respectivement de 72 mètres cubes et de 102 mètres cubes et desservent au total 36 000 habitants. Les diplomates ont visité également des bornes fontaines, une école, une salle polyvalente et une bibliothèque, fruit d'une bonne gestion par des communautés. Le député Dominique Sowa, président des ADIR, parle de cette expérience unique.
Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Nous avons rencontré beaucoup d'obstacles, les gens ne sont pas payés. Si les pays ne participent pas par manque de volonté, mais le mode de paiement ne les comprenait pas. Donc on a organisé les paiements à la prise d'eau.
L'ambassadeur de l'Union européenne, Bart Ouvry, a deux mots justes pour louer ce modèle de coopération.
Nous sommes venus avec de l'argent du contribuable européen. travail prévu par nos frères congolais.
Pour le nouvel ambassadeur de la Belgique, Bertrand Grosbrugge, la gestion participative de ce projet suscite un nouvel appui des bailleurs européens.
Et quand on nous propose des projets avec la qualité d'appropriation que nous avons vue ici, il y a moyen de convaincre les autorités belges de mettre encore plus d'argent.
Enfin, pour Boss Philippe, chargé des coopérations à l'ambassade de France, c'est un projet innovant.
C'est un projet innovant, c'est un projet qui a été porté. Il y a eu beaucoup d'obstacles et de challenges avec la bonne volonté des uns et des autres, on a progressé.
Notons qu'en 2017, l'Union européenne a alloué au niveau mondial plus de 2,5 milliards d'euros dans le domaine de l'eau, dans plus de 60 pays partenaires, dont la RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Un nouveau plan national de contrôle et de gestion des armes légères et de petits calibres est en voie d'être élaboré en RDC. Un atelier a été organisé à cet effet du 1er au 2 décembre dernier à Kinshasa. La Commission nationale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres, CNCALPC, organisatrice de cet atelier, a bénéficié dans cette entreprise de l'appui du service de lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS en République démocratique du Congo. Ce dimanche, le magazine des Nations Unies reçoit dans cette rubrique Hardy Gizendaner, expert en contrôle d'armes à UNMAS RDC. Monsieur Gizendaner répond aux questions d'Honoré Misenga Kalala.
Monsieur Hardy, bonjour.
Bonjour.
Un plan national de contrôle et de gestion des armes légères et des petits calibres en RDC. Il y a eu un atelier du 1er au 2 décembre auquel UNMAS a participé. Vous êtes un expert en la matière, monsieur Hardy. D'abord, qu'est-ce qu'une arme légère et des petits calibres pour le commun des mortels?
Bon, je pense qu'on peut constater qu'il n'existe pas de définition universellement acceptée au niveau global pour une arme de petit calibre et ou une arme légère. Parmi les définitions existantes, d'habitude, on fait usage du terme arme légère et de petit calibre en nous référant à la fois aux armes légères et de petit calibre de type militaire, mais aussi aux armes à feu destinées aux civils. Je peux vous donner quelques exemples. Pour les armes de petit calibre, on parle des revolvers, des pistolets, des fusils, des carabines, des mitraillettes aussi. Pour les armes légères, on parle des mitrailleuses lourdes, on parle des lance-grenades portatifs, on parle des fusils sans recul, on parle des lance-missiles antiaériens aussi, et les mortiers d'un calibre inférieur à 100 mm.
Revenons maintenant au plan national de contrôle des gestions des armes légères de petits calibres en RDC, le plan qui doit être réactualisé. L'UNMAS, votre institution, est impliqué dans ce processus. Est-ce qu'on peut d'abord faire un petit bilan du premier plan qui a démarré de 2011 à 2016?
Effectivement, il y a eu un premier plan d'action national de la RDC qui a été élaboré en 2011. Il a couvert la période de 2012 jusqu'au 2016. C'était un plan qui a été élaboré par le gouvernement via la Commission nationale de contrôle des ALPC et de la réduction de la violence armée, ensemble avec des partenaires internationaux et régionaux à l'époque. C'était un plan qui était ambitieux. Je dirais que le bilan est mixte. Un progrès important a été fait dans plusieurs domaines. Tout d'abord, c'était l'opérationnalisation de la CNC et le renforcement de sa capacité sur le territoire de la RDC, dont les antennes provinciales. Actuellement, il y a des antennes provinciales qui existent à Bunia, à Boma, à Kisangani, à Lubumbashi, à Mbandaka et à Bukavu. Celle de Bukavu n'est plus opérationnelle depuis quelque temps à cause du financement et le manque de ressources. Deuxième domaine, c'est la mise en œuvre des opérations de désarmement civil volontaire et la collecte des ALPC en Ituri et dans le Haut-Katanga. Il y a un important progrès qui a été fait dans la réhabilitation et ou la construction des armureries des FRDC et de la PNC. Au début 2016, il y a eu le commencement officiel des opérations de marquage des ALPC, des FRDC et de la PNC, ainsi que d'autres services de sécurité. Ceci vise effectivement à l'augmentation de la responsabilité et la comptabilité sur ces armes. C'est une activité qui est encore en cours. Elle est coordonnée par la CNC ALPC et conduite avec l'appui des partenaires internationaux comme l'UNMAS FINMAS et d'autres, ainsi que des partenaires régionaux. À ce moment-là, on a un peu plus que 40 000 armes qui ont déjà été marquées. Et un dernier progrès qu'on vient de noter, c'est la formation des acteurs étatiques et non étatiques, notamment sur la problématique des ALPC. Et finalement, il y a eu plusieurs études qui ont été effectuées sur thématique du contrôle des ALPC au niveau national, mais également dans les différentes provinces.
Par rapport aux leçons tirées de la mise en œuvre du premier plan, quelles réformes pourrait-on introduire dans le nouveau plan en gestation?
Pour le nouveau plan, il y a notamment le développement et le renforcement des institutions efficaces au niveau national. C'est un renforcement du mécanisme de coordination, notamment de cette commission dont je parlais avant, et de sa capacité d'opérationnaliser les antennes dans les provinces aussi, et de mener des activités sur le terrain même, et d'augmenter sa visibilité aussi. Il y a aussi un important travail ou des réformes qu'on pourrait envisager dans le nouveau plan d'action national lié aux instruments internationaux qui existent. Là, on peut mentionner notamment le traité sur le commerce des armes. C'est la RDC qui a voté en faveur de ce traité, mais n'a pas encore ratifié ou accédé à cet instrument international important. Donc, on pourrait envisager des activités dans le nouveau plan d'action national qui pourraient faciliter ce processus et mobiliser les acteurs pour une possible accession à cet instrument important. Le même pour la Convention de Kinshasa. C'est aussi un instrument au niveau régional qui a été signé par la RDC, mais pas encore ratifié. Après, il y a plusieurs domaines qui restent, qui étaient déjà inclus dans l'ancien plan d'action national et qui pourraient être renforcés ou pourrait y avoir une continuité des activités, notamment le marquage des ALPC ou l'enregistrement et la conservation des données. Il y a aussi un travail important qui reste sur la réforme du cadre légal et la législation nationale sur les ALPC. On envisage aussi une continuité du désarmement des civils, des groupes armés, des milices et des ex-combattants. Enfin, je trouve un point très important pour le nouveau plan d'action national, c'est d'inclure un mécanisme de suivi et d'évaluation fort pour pouvoir mesurer le progrès de ce plan et de s'assurer de l'approbation nationale de ce plan, ainsi que l'approbation par tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce plan.
Et Monsieur Hardy, quel est vraiment la problématique des armes légères? En d'autres termes, pourquoi il faut un plan national de gestion et de contrôle des armes légères et de petit calibre?
Tout d'abord, c'est les instruments et accords internationaux auxquels la RDC a souscrit qui demandent l'élaboration d'un tel plan, mais c'est aussi un plan important qui devrait établir le but global, les objectifs et les résultats souhaités, ainsi que les actions concrètes et mesurables pour y arriver. Donc c'est cela que permettra aux autorités nationales et à la CNCALPC non seulement de démontrer son engagement continu aux normes internationales de contrôle des ALPC, mais également d'être bien placé pour l'assistance et la coopération internationale et de renforcer la coordination au niveau national des activités des acteurs locaux, nationaux, mais aussi régionaux et internationaux dans la lutte contre la circulation illicite des ALPC et la réduction.
Et dernière question, M. Hardy. Quel est l'apport du FINMAS dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan national?
Tout d'abord, c'est un appui technique et personnel à la Commission nationale et les autorités nationales dans le développement de ce nouveau plan. Moi, je travaille donc étroitement avec le secrétaire permanent de la Commission et son équipe pour l'organisation des différentes activités et la réussite de ce processus. Après, nous sommes également à disposition pour accompagner les autorités nationales et la CNC ensemble avec nos autres partenaires des Nations Unies pour qu'elles puissent présenter le nouveau plan d'action national à la communauté internationale lors d'une importante conférence qui aura lieu en juin 2018 pour la révision du programme d'action des Nations Unies sur les ALPC. Ceci au niveau plutôt stratégique. Au niveau opérationnel, on continue nos activités en partenariat avec les autorités nationales pour la sécurisation des armes et le renforcement de la sécurité physique et la gestion des stocks par les services de sécurité. On continue aussi aussi d'une manière très concrète sur le marquage des armes, où on travaille avec nos partenaires internationaux et c'est la CNC qui coordonne ces activités. Donc on envisage aussi une continuation de ces activités-là. Et enfin, on envisage également de pouvoir travailler avec la MONUSCO et d'autres partenaires pour une meilleure identification et une meilleure analyse de la prolifération illicite des ALPC en RDC et dans les provinces qui sont les plus touchées par la présence de ces armes et la circulation illicite des armes et la violence armée.
Monsieur Hardy, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cette page nouvelle par le ACR, l'agence a soutenu les autorités congolaises dans l'ouverture de deux nouveaux sites de réfugiés, l'un à Baraka au sud Kivu, l'autre à Dungu dans le Haut-Tuélé, au nord-est de la RDC. Objectif, assurer la protection d'un plus grand nombre de réfugiés. Pour rappel, environ 90 000 civils originaires du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud ont fui vers la RDC au cours des 12 derniers mois, portant ainsi à plus d'un demi-million le nombre de réfugiés dans le pays. Ces réfugiés vivent en majorité dans les zones rurales frontalières de la RDC. Et puis en séjour au Sud Kivu, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, chargé des opérations et de l'état de droit, David Gracie, a inauguré mercredi dernier un projet d'impact rapide à l'hôpital général de référence de Bukavu. Il devrait ensuite se rendre jeudi à Walungu, au camp de transit des ex-combattants, ainsi que les sites d'exploitation minière de Luinja, un territoire de Mwenga où existe un conflit récurrent lié à l'exploitation artisanale des minerais à Bandro, une entreprise minière. Et puis, la MONUSCO a remis mardi dernier un important lot de matériel à la cour militaire du Katanga, Lubumbashi. Ce don entre dans le cadre de l'appui à la justice militaire en RDC. Il est composé des matériels informatiques et bureautiques acquis du projet PNUD CAP Union Européenne au profit donc des juridictions militaires de siège et du parquet de la province de l'ex-Katanga. Il s'agit de fournitures de bureaux, des baffes et des chaises destinées à faciliter la tenue des audiences foraines et des missions d'enquête.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le MAGUN revient sur l'entretien que Mme Annie Matundu a accordé mardi dernier à Radio Kapi. Mme Annie Matundu est présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, section RDC. Et c'était en marge de l'organisation à Kinshasa du 4 au 5 décembre par cette Ligue et en partenariat avec notamment ONU Femmes d'une conférence internationale pour fêter les 10 ans d'existence de cette plateforme en République démocratique du Congo. Annie Matundu a répondu aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Madame, bonjour.
Bonjour.
10 ans de construction de la paix par les femmes, pour les femmes et pour tous. Quel bilan à retenir?
10 ans de construction de la paix par les femmes, pour les femmes et pour tous. La leçon à retenir est que nous avons pris une vision d'une association de femmes qui existait il y a plus de 102 ans. Et en RDC, nous avons implanté cette vision en 2007, au moment où le pays était vraiment dans le conflit. Et nous avons jugé bon d'implanter cette vision de la paix pour que nous puissions travailler dans les thématiques de la paix en essayant d'amener la paix dans notre pays en faisant des ateliers de sensibilisation, des voyages, des plaidoyers, de lobbying dans la culture de la paix. Alors, les 10 ans, on doit avouer que le bilan est positif parce que nous avons mené beaucoup d'activités d'éclat au niveau local, au niveau national, au niveau régional, au niveau international pour ramener la paix en RDC. Nous sommes des héroïnes dans l'eau. Nous faisons beaucoup de choses qui amènent la paix.
Alors madame, construction de la paix par les femmes, est-ce qu'on peut concevoir la construction de la paix sans les hommes?
Oui. Moi, je connais pas un exemple d'une femme chef de la rébellion ou des guerres, des conflits. Tout ce que nous voyons depuis 1915, que la guerre a commencé, la première guerre mondiale, et c'est à cette période-là qu'est née la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes. Tous les belligérants étaient des hommes. Et la Ligue est venue pour parler à ces belligérants, pour dire non, il faut arrêter la guerre. Et c'est comme ça que la première guerre mondiale a arrêté. C'est à cause des femmes qui ont fait des plaidoyers auprès des belligérants pour faire arrêter la guerre. Donc c'est possible que les femmes aident pour arrêter la guerre.
Quels sont, madame, selon vous, les pesanteurs qui ne permettent pas encore aux femmes de s'impliquer au maximum dans la construction de la paix et de la liberté?
notamment en RDC?
Les pesanteurs sont énormes. D'abord, il faut savoir que l'argent est investi dans l'homme par l'homme. Et pour l'homme, on parle du problème de l'autonomisation. Quelle est cette femme qui a un réel pouvoir économique? Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont un réel pouvoir économique. Pourquoi? Parce que l'argent est investi dans l'homme, pour l'homme et par l'homme. C'est comme ça, en faisant les 10 ans de la construction de la paix, par les femmes, pour les femmes, mais pour tous, hommes et femmes, nous voulons déplacer cet argent de la guerre vers la paix. Comment allons-nous faire pour déplacer l'argent de la guerre vers la paix? Il faut que cet argent qui est investi par l'homme, pour l'homme, qu'il soit investi par les femmes. On a fait un rapport avec la Banque mondiale en 2010 où on a essayé de donner le même montant et à l'homme et à la femme. Je donne l'exemple, $100. Quand vous revenez, vous demandez à l'homme et à la femme comment vous avez utilisé cet argent. Vous allez voir, l'homme a utilisé les $100 pour acheter la bière, la cigarette, peut-être sortir un peu avec une jeune fille. Mais la femme, elle a utilisé le même $100 pour approvisionner la maison en nourriture, pour peut-être payer les frais scolaires des enfants, pour amener les enfants à l'hôpital. Vous voyez la différence? Et si on investit cet argent au sein de la famille et que la femme est responsable, mais les choses vont changer.
Donc la première pesanteur est d'ordre économique. Quelle autre pesanteur?
Social, politique. Combien de femmes que nous avons au niveau des institutions? Nous suivons la résolution 1325 et nous faisons les indicateurs de cette résolution. Parce que dans la résolution 1325, il y a 3 piliers. Il y a le pilier de la participation, il y a le pilier de la prévention et de la protection, il y a le pilier de la promotion. Et dans chaque pilier, nous essayons de voir les écarts qu'il y a entre l'homme et la femme. Mais c'est cruel. Il y a trop d'écarts.
Merci, madame.
Merci beaucoup.
Un concert à Kamina pour la paix, l'initiative du bureau de la MONUSCO Lubumbashi en collaboration avec les autorités provinciales du Olomami, et c'était la semaine dernière. Ce concert était placé sous le thème « Paix pour tous » et l'objectif de l'activité était d'appeler la population de Kamina à cultiver la paix, l'unité, la tolérance et la non-violence. Des milliers de personnes avaient répondu à l'appel. Karine Topé était sur place à Kamina et le Maguen revient sur cet événement.
Ce concert est l'une des rares productions publiques offertes à la population de cette jeune province. Les habitants venus par milliers étaient heureux pour cette initiative de la MONUSCO. Certains pleuraient de joie, d'autres poussaient des acclamations frénétiques, d'autres dansaient à n'en point finir. Les magasins et les boutiques se trouvant à proximité du lieu du concert ont tous fermé leurs portes pour assister à ce rendez-vous de la culture. Dans la foulée se trouvaient des hommes, des femmes et des enfants de tout âge confondu, et même les hommes en uniforme. La place écran géant était noire de monde, au point qu'il était même difficile de frayer un chemin à l'arrivée des artistes du groupe Manseba. Ce groupe est bien connu dans la zone, mais n'avait jamais foulé les pieds à Kamina. D'autres artistes locaux ont été aussi associés à cette manifestation. Le message transmis à la population à travers le théâtre et la musique était clair: cultiver la paix, la tolérance et la non-violence.
Je vous demande une seule chose, aimez-vous? Abat la guerre. Nous sommes tous des frères. Que personne ne vienne vous séparer. Applaudissez pour vous-même si ce message vous intéresse.
Les artistes ont aussi saisi cette opportunité pour déclarer à la population qu'il sera difficile de voir leur province se développer si eux-mêmes ne vivent pas en paix. Un message que la population a accueilli à cœur joie.
C'est pour nous une grande joie et surtout un plaisir parce que ça fait le message que Manseba a amené à cette population de Kamina sur le message de la paix. Et c'est cette paix-là que nous sommes en train de vivre, comme vous-même vous le voyez, avec l'ensemble de la population de Kamina.
Vraiment un bon message, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la vie au monde. Nous remercions beaucoup l'organisation de MONUSCO.
Des événements pareils, des loisirs, et surtout avec le message de paix, ça véhicule ce message-là et pour qu'il soit ancré dans la population du Olomami. J'ai toujours regretté parce qu'on apprend, la MONUSCO a fait ceci ailleurs, a fait ceci là-bas, mais comme la MONUSCO pense aussi au Olomami, il faudrait leur dire merci.
Que représente cet événement pour Kamina? Le ministre provincial de la Culture précise.
Les habitants de Kamina aiment la culture. Les habitants de Kamina sympathisent avec ceux qui aiment le bien-être, qui aime la paix. Je lance l'appel à toute la population de la province du Olomami, en général et de la ville de Kamina en particulier, à ce que l'on puisse continuer avec l'élan que nous avons toujours eu. C'est une province de paix.
Kamina, Karine Topéry d'Assi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et voilà, je vous invite à présent à suivre la question d'un confrère de la RDC Kinshasa sur la problématique de l'autonomisation des réfugiés que préconise le ACR RDC. La question est adressée à Simon Louboukou, chargé de la communication au bureau de la représentation régionale du ACR Kinshasa. C'était le mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies.
Venant vous dire ça de la RTNC, je vous ai entendu parler de l'autonomie qui sera accordée aux réfugiés par les HCR. Juste, qu'est-ce qui leur sera accordé afin qu'ils deviennent autonomes? Les quelques grains de riz, un peu de la nourriture pour à peine 2, 3, 4 jours, et c'est ça qui pourra les rendre autonomes.
Merci. Nous disons que nous voulons, avec les réfugiés, tendre vers l'autonomisation, c'est-à-dire les aider à ne plus être totalement dépendant de l'assistance. Nous recevons de moins en moins l'assistance comme demandé. Nous avons reçu moins de 25% des 261 millions de dollars demandés pour cette année. Donc si on doit attendre que l'argent demandé puisse aider les réfugiés, nous pensons que les réfugiés ne vont pas survivre. Donc nous les aidons à devenir autonomes. Ils reçoivent des terres, comme on a dit, c'est les autorités congolaises qui donnent les terres, mais avec les partenaires, ils reçoivent des semences, des outils pour travailler. Nous avons une nouvelle expérience avec les réfugiés centrafricains qui sont à Inke, au nord Ubangi, qui sont en train de fabriquer des makapads, c'est les serviettes hygiéniques pour les femmes, avec les matériaux trouvés sur place, qui les aide aussi à s'autofinancer. Donc voilà, nous sommes en train de pousser vers l'autonomisation.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Bonjour, pour moi c'est Trésor Batachiana Kishala. Voilà, je suis administrateur national à la protection pour le bureau du ACR Badolité. Je suis marié à une très jolie femme, père d'une fillette. Je suis juriste de formation à l'Université de Kinshasa. Je suis au ACR depuis février 2015. J'avais commencé dans la province du Bas-Congo à l'époque, dans le bureau terrain de Kimvula. Et depuis lors, je chemine Bas-Congo, Katanga, Pueto Moba, Beni, Bunia. Et ensuite, je suis présentement à Bado, chargé de la protection. Ouf, la journée du travail. La première des choses, c'est lire les mails. S'il y a des mails très urgents auxquels il faut répondre, je commence toujours par là. Et ensuite, je reviens au planning de la journée, hein, que j'ai laissé, pour voir s'il y a des dossiers à traiter. Et ensuite, il y a tous les entretiens avec les réfugiés, l'orientation des collègues, l'orientation des partenaires. Voilà, donc c'est souvent comme ça. Donc c'est toujours une journée pleine. Oui, avant l'ACR, juste après mes études universitaires, j'étais employé chez Oxfam Québec, une ONG internationale. Et ensuite, depuis une année à l'Oxfam Québec, et depuis lors, je suis au ACR. Mon temps libre, je reste avec ma famille. Et souvent, c'est soit en écoutant un peu de musique, et bien le week-end, souvent, le samedi, dimanche, c'est plus le sport que j'ai fait le matin. Voilà, donc ce qui m'intéresse beaucoup plus. Et le soir, quand on a un peu de temps libre, je fais un peu de lecture. Voilà, pour un peu réfléchir. Et surtout, ne pas oublier les notions de droit qui nous avaient appris à l'université. Oui, j'aime la musique chrétienne. La musique chrétienne, Laure Mbongo et la pauvre sœur Marie Nissan. J'aime beaucoup leur musique. Sport, je fais la marche, comme je l'ai dit, le week-end souvent, mais le foot aussi, hein, je joue aussi au foot de temps en temps. Oui, en RDC, je suis supporter d'abord de l'équipe nationale, et non Léopard, mais aussi les tout-puissants Mazembe. Mais aussi le plan international, c'est le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, oui, j'aime bien la nourriture, j'aime la bonne cuisine. Congolaise, oui, j'aime les pondous, les poissons et les foufous. C'est tous les poissons tilapia, et comme il y en a beaucoup à Badolité, non, je me sens très bien. Oui, après les ACR, c'est vrai que tout début a une fin, mais après les ACR, je pense travailler pour la nation congolaise, d'une manière ou d'une autre, pour la population congolaise, particulièrement les vulnérables. Voilà. Ok, merci beaucoup, je salue mon papa, monsieur Léon Kishala Kiana, qui est un auditeur fidèle de Radio Okapi. Et je salue également ma femme et ma fille. Et je salue tous les collègues d'IACER, tous les collègues partenaires. Et nous sommes là pour le travail d'IACER. Merci beaucoup.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Retenez un ces rendez-vous de la semaine du 11 au 15 décembre, un séminaire de renforcement des capacités professionnelles des inspecteurs de la PNC pour le contrôle et l'évaluation de la sécurisation des opérations électorales. Ce sera à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Du 12 au 13, formation à l'intention d'une cinquantaine de magistrats sur le thème « Le rôle du magistrat dans la prévention et la répression des violations de droits de l'homme et des libertés fondamentales en période électorale », lieu Centre Bethany. Et enfin, le 14 décembre, ce sera la célébration de la journée des droits de l'homme avec environ 500 personnes au siège de la MONUSCO à Utex Africa à Kinshasa. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du Mag UN qui vous a été présenté par Tina Salama. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. À la mise en onde, Bob Landou, Honoré Missenga Kalala au reportage et à la réalisation. Jean-Pierre Elalif Coco était au reportage et à la coordination. Martin Sibjangwe à la supervision. On se dit à très bientôt sur Radio Kapi. Ciao.